Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 22e épisode de JT Sport, le podcast sportif des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Au programme cette semaine, une analyse des futurs adversaires du stade toulousain, les Bouses de Pretoria dans notre grand format. L'actualité des clubs toulousains, dans les désormais traditionnels brèves d'Occitanie, qui cache une belle surprise cette semaine. On reviendra ensuite en 2009 pour évoquer la dernière demi-finale de Coupe de France du TFC. Puis nous ferons un tour plus large de l'actualité sportive avec les brèves nationales et internationales. Avant de terminer avec le moment que vous attendez tous, le fameux quiz de la semaine.
Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France.
La deuxième place pour Yoann Carré.
C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Ce week-end, c'est le retour de la Coupe d'Europe. Dimanche à 16h, les Toulousains reçoivent les Bouses de Pretoria en 8e. Un choc inédit. Coup de projecteur sur cette équipe avec Hugo Laborde.
Nouveauté cette année, les clubs sud-africains ont intégré la Champions Cup. Parmi eux, les Blue Bulls, futur adversaire de nos Toulousains dimanche prochain. 7e de la United Rugby Championship, dominé par le Leinster, on peut qualifier la saison de mitigée pour les hommes de Jack White. L'ex-entraîneur de Montpellier, vainqueur du Challenge européen en 2016 avec le club Hérolté, ne sera pas dépaysé à Vallon. Toulouse n'est pas le premier club français à affronter celui de la capitale économique Pretoria cette année. Entrés dans la compétition dans leur antre de près de 50 000 places, les joueurs sud-africains avaient battu les Lyonnais de Yann Roubert 42-36. Le 20 janvier dernier, les Bulls ont découvert la France et le stade Gerland. Malheureusement pour eux, la ville des Lumières ne leur a pas trop bien réussi. Ils se sont lourdement inclinés sur le score de 31-7. Sur le reste de leur campagne européenne, les Bulls s'en sortent à domicile mais sont défaits à l'extérieur contre les Anglais d'Exeter. Ils ont terminé 7e de la poule A de Champions Cup, les qualifiant pour les 8e de finale. Revenus 100 points d'Irlande ce week-end, leur défaite face à l'Ulster porte à 5 leur nombre de défaites de rang. Les coéquipiers de Kirtley Aranze arrivent donc en véritable outsider ce dimanche à Ernest Vallon.
Les Toulousains, eux, arrivent avec quelques incertitudes. Corentin Mogue, les questions se concentrent surtout sur l'état de forme des internationaux, de retour après le tournoi des 6 nations.
Et si certains joueurs pensaient pouvoir prendre quelques vacances bien méritées après le tournoi, ils peuvent oublier, sitôt la parenthèse nationale refermée, qu'il faut se remettre dans le quotidien du club. Et quel quotidien, puisque les phases finales de Coupe d'Europe commencent déjà, nouvelle formule oblige. Et si l'excitation monte évidemment en attendant ces échéances, il y a des interrogations. Car comment vont revenir les Thomas Ramos, 381 minutes jouées durant le tournoi, Antoine Dupont, 382 minutes, ou encore Thibaut Flamand, qui a disputé intégralement les 5 rencontres. A la différence des années précédentes, Hugo Mola a préféré faire souffler ses internationaux lors de la rencontre suivant le tournoi. Leur performance sera donc évidemment scrutée, de même que leur état de forme.
Mais le coach toulousain pourra s'appuyer sur tout un effectif qui a été plutôt performant pendant la période internationale.
On l'a souvent répété pendant cette émission, Toulouse a été solide. Le bilan final, 4 victoires en 6 matchs, une première place au classement confortée avec 6 points d'avance sur son dauphin Rochelet. Et en tant que supporters rouge et noir, nous allons essayer d'oublier la contre-performance chez nos voisins castrés ce week-end pour se concentrer sur ce que l'on a vu de positif. Et du positif, on en a vu. Des joueurs ont montré qu'il était possible de compter sur eux. Méafou évidemment a confirmé, mais des joueurs comme Paul Graou, Alexandre Roumat ou Dimitri Delib ont assuré et pourront venir au soutien des cadres en cas de besoin. Toulouse semble bien rodée et en confiance avant d'aborder ses phases finales européennes.
Voilà un programme qui fait saliver, on a hâte d'être à dimanche. Et pour rappel, le match sera commenté en direct sur la page Facebook de JT Sport. Pierre Coplot, tu as suivi les clubs occitans ce week-end et tu as pu assister à un petit miracle.
Et ça y est, enfin, 15. Il aura fallu 15 matchs au TMB pour regoûter à la victoire. Les basketteuses mettent fin à leur série noire de défaites consécutives en championnat sur le parquet de Roche-Vendée. En dépit d'une entame de matchs poussive, les pionnières ont su retrouver les ressources pour venir à bout de leur adversaire 76-73 dans le cadre de la 18e journée de LFB. Les filles de Xavier Noguera grimpent ainsi à l'avant-dernière place du classement. Joli coup aussi ce week-end, il vous a été proposé par le Phoenix Handball ce dimanche. Après une lourde défaite sur le parquet du PSG la semaine dernière, les Hauts-Garonnais se déplaçaient chez le 3e du championnat à Nantes. Et à l'issue d'une prestation très solide, les Toulousains ont obtenu un beau résultat nul 33 partout. Avec ce nul, les hommes de Daniel Handledkovic restent toujours en course pour les places européennes, 6e à un point de Nîmes, qu'ils affronteront la semaine prochaine. Ainsi, tout est encore possible.
En revanche, le reste des résultats est beaucoup moins glorieux.
Oui, en particulier du côté du volley. Dernière désillusion pour les Spacers, ils accueillaient samedi les Franciliens de Plessis-Robinson pour le compte de la dernière journée de la phase régulière de Ligue A. Et les Toulousains ont été sèchement battus à un domicile 3-7-1. Épargnés de la relégation, les protégés de Patrick Duflo pouvaient encore nourrir l'infime espoir de se qualifier pour les Playoffs Challenge Cup. Cette dernière défaite face à l'avant-dernier du classement sonne donc le glas de leur saison. Les volleyeurs toulousains terminent donc la phase régulière à la 11e place avec 27 points. Une totale déception.
Mesdames, messieurs, prosternez-vous.
C'est bien fait.
Extraordinaire. Extraordinaire, ma bien joué.
Les champions, la finale. Vas-y, mon petit.
Mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
Jeudi 6 avril, le TFC se déplace sur la pelouse d'Annecy à l'occasion des demi-finales de Coupe de France. La dernière fois que les Violets avaient atteint ce stade de la compétition, c'était le 22 avril 2009 contre Guingamp. Alexandre Rubin, tu remplaces Tristan Ranea et tu reviens sur ce match au goût amer pour les Toulousains.
Oui, plus de 50 ans après l'unique finale toulousaine en Coupe de France, le club de la Ville Rose avait l'occasion d'écrire une des plus belles pages de son histoire. Et tout ça devant son public, c'est tout un peuple qui attendait la qualification de son équipe. Les rues de la ville se sont parées de violets et le stadium a fait sale comble. Plus de 30 000 spectateurs attendus pour un match qui a pourtant lieu un mercredi soir. Tous les éléments sont réunis pour célébrer une qualification en finale au Stade de France. Mais avant ça, il faut d'abord battre le Guingamp de Victor Zvonka.
Mais tout ne se passe pas comme prévu pour les Toulousains.
Oui, en première mi-temps, l'équipe est méconnaissable. Toulouse n'arrive à rien. À la 29e minute, Koné dévie une longue touche jusqu'à son attaquant Eduardo. Il n'a alors plus qu'à ajuster Carasso de la tête. 1-0 pour l'en avant à la pause. Et le TFC ne s'en sort pas si mal. Les mots de la dépêche sont durs pour décrire cette première période. Ils ont laissé une équipe bretonne s'installer ici comme si elle recevait dans son salon un ballon systématiquement perdu, pas de mouvement, des courants d'air sur chaque démarrage d'un joueur de Guingamp. Une caricature.
Mais en deuxième mi-temps, l'espoir renaît.
Effectivement, au retour des vestiaires, l'équipe se réveille un peu. Et 7 minutes après la reprise, on se dit que c'est peut-être le tournant du match. Souma reçoit un deuxième carton jaune et se fait expulser. Devant cette décision, Zvonka explose et écope lui aussi d'un carton rouge. Après de 40 minutes du terme de la rencontre, Guingamp se retrouve à 10 contre 11 et sans entraîneur. Le stadium pousse et finit par être récompensé. À la 74e, Gignac envoie une demi-volée sous la barre de Gauquelin. Un partout, le public pousse, le TFC aussi, mais en vain. Les Guingampais jouent bien les contres. À la 84e minute, Carasso est bien heureux de voir la tentative de lob d'Eduardo s'écraser sur sa barre transversale. Mais 6 minutes plus tard, les poteaux sont bien plus cruels. Orama tire un coup franc repris par la tête de Seine, fraîchement entré en jeu. Le ballon touche le montant et termine sa course dans les filets. 2-1 pour Guingamp, Toulouse est éliminé.
Une défaite d'autant plus frustrante que le TFC faisait figure de favori.
Carasso, Mathieu, Capou, Mansaré, Sissoko et Gignac, le meilleur buteur à cette époque avec 19 réalisations en 32 matchs. En 2009, Toulouse aligne peut-être la meilleure équipe de son histoire professionnelle. Avant cette demi-finale, le club se classe 5e et possède la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 22 buts encaissés. De son côté, l'en avant erre dans le milieu du tableau de Ligue 2. Alors forcément, sur le papier, le match paraissait déséquilibré. Victor Zvonka donnait du 60-40 pour Toulouse et Alain Casanova restait méfiant, mais confiant. Si le public reste derrière nous comme un vrai 12e homme, ce sera dur de nous résister. Finalement, la logique n'a donc pas été respectée. Guingamp s'est offert une finale 100% bretonne contre Rennes, une finale remportée 2-1 qui lui a permis de soulever la première Coupe de France de son histoire.
Et on espère que la demi se passera mieux cette année pour les Toulousains. Après l'actualité régionale, on élargit sur l'actualité nationale et internationale avec toi, Benjamin Abgral. On commence avec un back-to-back pour Alexis Lebrun en tennis de table ce week-end, c'est bien ça?
Alors oui, complètement, chez les Lebrun, prenez l'aîné et le Benjamin de la fratrie, et ça vous donne les finales des championnats de France de tennis de table. Comme l'année dernière, les deux frères se sont donc départagés pour le titre de meilleur pongiste, et c'est Alexis, l'aîné, qui l'emporte 4-7-1 sur son frère et conserve la couronne. À 16 ans et 19 ans, les deux joueurs n'ont pas fait de cadeau à leurs adversaires pendant tout le tournoi, même si Félix était très proche de sortir dès les 8e de finale. On peut donc déjà parier qu'ils seront au rendez-vous en 2024.
On passe au foot avec une belle victoire des Bleus vendredi contre les Pays-Bas.
4-0, c'est net et sans bavure pour l'équipe de France face aux Néerlandais. Pour ce premier match des éliminatoires de l'Euro 2024, les Bleus ont marqué très vite avec 3 buts en 20 minutes, en dominant largement leur adversaire, complètement perdu sur la pelouse du Stade de France. Résultat, un doublé pour Mbappé, un but de Griezmann et un Upamecano. Prochain match pour les vice-champions du monde ce soir à l'Aviva Stadium contre l'Irlande.
Et une victoire française en cyclisme.
Ah, celle-là, elle fait du bien. 26 ans qu'un Français ne s'était pas imposé sur Gant-Wevelgem. Christophe Laporte leur rejoint donc Anquetil, Hinault et Gaumont. Le Français s'impose donc sur cette 85e édition de la classique flandrienne, bien aidé par son coéquipier Wout van Aert, qui signe un doublé pour Jumbo-Visma. Ils sont sortis tous les deux du peloton à 50 km de l'arrivée et ont réussi à maintenir leur avance pour finir main dans la main.
Ça a été poussif par contre pour les rugbywomen françaises face à l'Italie.
Ouais, et elles ont eu chaud. Hein. Hier, les Françaises ont affronté les Italiennes donc pour leur entrée dans le tournoi des 6 nations. Une victoire 22-12 sous une pluie battante à Parme avec énormément de fautes de main. Prochain match pour les Françaises contre l'Irlande samedi prochain.
On finit par du golf avec un exploit pour Céline Boutier.
C'est ça, elle est devenue la Française la plus titrée du circuit LPGA en remportant son troisième titre de sa carrière, le Drive One Championship dimanche en Arizona. En fait, ce tournoi il compte pour le circuit nord-américain professionnel et elle rend une carte de 68 coups, soit 4 coups de moins sous le par. Une belle journée en conclusion.
Merci Benjamin pour ce beau résumé. Sans transition, on passe au quiz concocté cette semaine par le grand Mathieu Locke.
Ce week-end a marqué le début de la saison 2023 de MotoGP sur le circuit de Portimão au Portugal. C'est le pilote Ducati Francesco Bagnaia qui s'est imposé. Alors pour fêter le retour de ces acrobates des circuits, je vous propose de répondre à une question très simple. Est-ce que vous êtes prêts? Alors depuis le début de l'ère du MotoGP en 2002, qui a été champion du monde de la catégorie? Il y a 8 vainqueurs différents. 8 champions du monde différents à me citer.
Quartararo.
Fabio Quartararo, c'est une bonne réponse.
Valentino Rossi.
Valentino Rossi, c'est une bonne réponse.
Marc Marquez,
c'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée? Il m'en faut...
Sarko?
Non, pas Sarko, il n'a pas encore gagné de course en plus.
Joan Mir,
c'est une bonne réponse. J'espère que t'as pas regardé en plus. Là, vous m'en cité 4 si je dis pas de bêtises.
Il y avait pas Nicky Hayden?
Il y a bien Nicky Hayden qui a la particularité d'être celui qui a cassé l'hégémonie de Rossi au début. En 2006, ouais, notamment. Alors, il me manque 3 noms.
Ouais, ah, c'est compliqué, là.
Non, mais là, il me manque le champion de l'année dernière. Vous ne l'avez pas cité.
Ah, bah,
messieurs.
Bagnaia.
Francesco Bagnaia.
Oui, Francesco Bagnaia. Il vient de gagner la course, quand même. Je l'ai cité. les deux réponses qui restaient, c'était Jorge Lorenzo, avec 3 titres, et Casey Stoner. Bon, celui-là, je pense que vous l'aurez jamais eu.
Casey Stoner.
Allez, la deuxième question, du coup. La semaine dernière, c'était la fin du tournoi d'Indian Wells. On a eu droit à une victoire de Carlos Alcaraz chez les hommes, qui a repris la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Et chez les femmes, c'était la joueuse du Kazakhstan, Elina Rybakina, qui a gagné. Alors, ils sont encore en lice à Miami et ils peuvent réaliser ce qu'on appelle le Sunshine Double. En gros, ils remportaient le tournoi d'Indian Wells et de Miami la même année. Alors, même question, qui a déjà réalisé le Sunshine Double? Chez les hommes et chez les femmes, s'il vous plaît.
Novak Djokovic
est une bonne réponse.
Andy Murray
est une mauvaise réponse.
Super bon aujourd'hui.
Nadal.
Rafael Nadal n'a jamais gagné le, je sais plus lequel d'ailleurs, mais l'un des deux tournois.
Serena Williams.
Eh bien, il se trouve que Serena Williams n'a jamais fait le Sunshine Double. Elle n'est pas venue à Indian Wells pendant une douzaine d'années en fait.
Est-ce qu'il y aurait Simona Halep?
Simona Halep, c'est non. Ah là, j'ai qu'une seule réponse.
Federer,
ouais, quand même. Roger Federer, deuxième bonne réponse.
Et puis Steffi Graf, peut-être.
Chez les filles, il y a bien Steffi Graf.
Je dirais André Agassi.
Voilà, André Agassi, la légende américaine. Une fois, en 2001 seulement.
Chez les filles, est-ce que Navratilova l'a fait?
Non, Navratilova n'a pas réussi le Sunshine Double. Alors... voilà, je pense que là, c'est... Allez, je vous donne un indice, il y a une joueuse qui a tout gagné l'année dernière, pratiquement, et qui l'a fait.
Ah, Swiatek.
Iga Swiatek. Voilà, c'est une bonne réponse pour Coco. Et je pense que je vais vous lâcher tous les autres noms. Chez les hommes, il y avait Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, en plus de Agassi, Federer et Djokovic. Chez les femmes, Steffi Graf, Iga Swiatek, mais aussi Kim Clijsters et Victoria Azarenka.
Merci à tous les chroniqueurs du soir et à Valentine et Emilien en régie. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 14 jours pour la 23e édition de JT Sport. Très bonne semaine à tous.